Avant qu'on parle des enseignants, la mesure concernant le port du masque à l'extérieur qui a été annoncée hier, là, ça n'a pas été très clairement expliqué. Là, puis,
Mais c'est surtout que ça a été annoncé la semaine passée, Paul, déjà. Puis ça a été... C'est passé comme en dessous de la couverte. C'était pas clair. Puis là, hier, ils ont apporté d'autres modifications à ça qui complexifient encore l'affaire.
Puis en plus, quand on demande au Dr Arruda, êtes-vous capable de justifier ça? Là, c'est quoi l'étude qui vous permet de prendre ou de recommander ça? Ben, il n'y en a pas. Tu sais, je comprends là, que quand tu compares extérieur-intérieur, il y a des risques quand même à l'extérieur, mais qui sont minimes. Là, j'ai vu une étude à je ne sais plus combien, là, mais très, très faible.
Oui.
Mais quand tu veux vendre une mesure aux citoyens, il faut que tu sois capable de dire pourquoi. Il faut que tu me l'expliques. Sinon, pourquoi je t'écouterais? Là?
Exact. Moi, je pense qu'ils ont vu venir les rassemblements extérieurs dans les parcs avec le beau temps et tout le reste. Mais si c'est ça, dis-nous-les, puis dis-nous...
C'est basé sur quoi?
Ben voilà, voilà, voilà.
Bon, on a 73 000 enseignants de la CSQ qui sont en grève jusqu'à 9h30 ce matin.
Ouais, puis Dieu sait, là, ce qui va arriver avec l'enseignement après 9h30 ce matin, Paul. Parce que moi, là, les indications que j'avais de Québec hier soir, c'était que dans la majorité des écoles, c'est l'enseignement à distance qui est prévu. Mais Paul, les écoles, est-ce qu'elles sont prêtes à ça? Est-ce que les enseignants ont planifié un cours d'enseignement à distance après 9h30 aujourd'hui? Moi, j'ai hâte de voir ça, là. J'ai hâte de voir ça. Moi, j'ai l'impression que dans bien des écoles, Paul, cette journée scolaire va finir en journée perdue.
Écoute, hein? Il y a des, comme on dit, des modèles qui varient d'un établissement à l'autre. Là. Non, non, mais je te jure, parce que j'ai fait l'exercice ce matin. Là.
Non, je sais.
D'abord, les profs sont disponibles pour l'enseignement à partir de 9h31. Ça, c'est la première chose. On m'a donné l'exemple d'une école où le transport scolaire est décalé de 2 heures. Le début des cours est prévu, dans certains cas, à 10h30, je pense que c'est le primaire, à 11h pour le secondaire. Il y a un service de garde, pas le matin, mais le midi. Écoute, là, d'autres places...
Ouais, ouais.
Les profs ont donné le matériel hier en disant « Voici ce que vous avez à faire demain. »
Oui, oui. Puis ça, c'est sans parler des centres de services scolaires qui, finalement, ont décidé de même pas faire semblant.
Ils font une journée pédagogique.
Ils ont remplacé la journée d'école par une journée pédagogique.
Oui.
Bon. Puis là, comme tu dis, il y en a qui vont commencer à 9h30, mais ça,
9h30... 10h30, 11h.
Ouais. Ben, c'est ça. Puis là, tu parles de transport scolaire. Ça, c'est ceux qui en auront du transport scolaire.
C'est pour ça que je te dis qu'il y a des modèles et des modèles et des modèles.
En tout cas, dans tous les cas de figure, Paul... Ce sont les parents qui sont pris avec le problème, bien plus que les administrateurs, ce qui était l'objectif déclaré de la grève. Je te rappelle, la raison pour laquelle ils sont arrivés avec ce modèle innovant, comme disait Mme Scalabrini, la présidente donc des enseignants CSQ, c'était pour pas nuire aux enfants puis pas nuire aux parents. Ben là, moi, je vais te dire, pour ce qui est de pas nuire aux parents, je pense qu'ils passent à côté. À cette heure, est-ce que ça veut dire qu'ils ratent l'objectif?
Moi, j'ai juste une question.
Ouais.
C'était quoi le problème des centres de services scolaires de dire, OK, les cours commencent à 9h30, que les élèves se présentent comme prévu à 9h30? Moi, j'essaie de voir depuis le début, là. T'sais, je comprends, là, puis là, au nom de la sécurité, puis le service de garde, puis...
Ouais.
Moi, j'ai trouvé que la réaction était une réaction d'employeur qui se dit, écoute, m'a sauté là-dessus.
Ben, il y a ça, Paul, il y a celle-là. Ça, c'est une bonne question. Mais qu'est-ce qui empêchait aussi... Je te dirais, les centres de services scolaires, peut-être même en discussion avec le syndicat, d'ouvrir les services de garde pour permettre aux parents de déposer l'enfant. OK, les cours commencent pas avant 9h30. Vous voulez avoir une ligne de piquetage? Très bien, vous avez le droit.
Mais... Non, mais il y a eu dans le passé des manifs. Moi, j'ai vu ça, là, des manifs la première heure. Là, ils manifent une heure avant l'ouverture, puis les cours reprennent après.
Oui, oui.
Là, j'ai trouvé l'espèce de réponse des centres de services scolaires en disant « Ah, vous voulez jouer à ça? Ben on va enlever le transport scolaire, on va enlever le déplacement. »
Et on va aller devant le tribunal. Puis tout
on
ça.
Va aller devant le tribunal, puis après ça, on va vous écœurer. Puis bon.
Moi, je te parle de responsabilité partagée. Parce que dans le cas des éducatrices dans les services de garde scolaire, il y en a beaucoup qui sont membres du même syndicat. Là.
Ouais.
Les enseignants dans l'école, puis les éducatrices du service de garde, ils sont CSQ tous les deux. Il y aurait très bien pu, je pense, ça aurait été de l'innovation syndicale. Tu dis aux parents, regardez, si vous êtes pris, on ne veut pas que vous sacrifiez une journée de congé. On ne veut pas vous obliger à rester à la maison avec les enfants ou à prendre une partie de l'avant-midi parce que tu vas être obligé de venir les mener à l'école toi-même parce qu'il n'y aura pas d'autobus. Bon, bien, on va vous permettre de venir les déposer au service de garde. Il aurait fallu que ça s'organise avec les centres de services scolaires, évidemment. Tu comprends? Mais je pense que les syndicats auraient pu dire, garde, on va y laisser passer les enfants que vous venez déposer au service de garde, puis à 9h30, ils vont être sur place. Il me semble qu'il aurait pu y avoir moyen de s'arranger. En tout cas, tout ça pour te dire, moi, je me pose la question, est-ce que l'objectif de la grève est atteint quand t'écœures les parents? Moi, je pense que non. Je pense que non. Si l'objectif, c'est d'augmenter ton rapport de force face au gouvernement, ben faut que tu ailles chercher des appuis dans l'opinion, faut pas que t'en perdes. Cela étant, si la grève, elle sert à nous rappeler que le gouvernement Legault a toujours pas honoré ses engagements d'augmenter de manière substantielle la rémunération des enseignants, là, peut-être que la grève atteint son objectif. Parce que, Paul, ça fait 2 ans et demi que la CAQ est au pouvoir, puis l'engagement emblématique de François Legault en matière d'éducation, c'était quoi?
Ah non, mais...
C'était d'augmenter le salaire des profs, tu comprends? Et c'est toujours pas fait. Et là, évidemment, ça nous ramène à la négo. Madame Lebel, présidente du Conseil du Trésor, elle négocie. Elle veut pas que ça... Elle dit à ses collègues, parlez pas. Il paraît qu'il y a des progrès intéressants à la table. Même Madame Scalabrini te le disait en entrevue hier matin, oui, ça bouge.
Monsieur Robert, est-ce qu'il existe encore? Écoute, on le voit pas.
Ben hier, il était en chambre, il s'est fait chauffer les oreilles après son histoire de test là, dans les écoles, là, dans les classes. Mais hier, en entrevue, il a dit, Roberge, qu'il y avait une proposition intéressante sur la table pour valoriser les enseignants. Puis apparemment, il y a de l'argent qui vient avec ça. Fait que... Alors, espérons que peut-être que la journée d'aujourd'hui, Paul, ne sera pas la goutte qui a fait déborder le vase, mais la goutte décisive qui aura permis la signature d'une nouvelle convention. Tu sais, puis ça permet aux syndicats aussi de faire leur politique, Paul.
Ben oui, mais...
Tu sais, je veux dire, ils font de la politique, les leaders syndicaux. Ça leur permet de dire, regardez, on a fait une grève. S'il y a une signature dans les prochaines semaines, Mme Scalabrini va pouvoir dire, c'est grâce à notre grève, ça a fait débloquer les affaires, comprends? Des fois, il faut que les leaders syndicaux fassent des petits détours avant de signer, parce qu'il faut qu'ils montrent à leurs membres les plus militants qui ont tout essayé.
Tu vois, quand je te dis là, qu'il y a des endroits là, qui décident d'ouvrir, ce matin, on me dit, là, je ne sais pas où exactement, là, mais en tout cas, un centre de service scolaire, 9h31, les cours en classe. Écoute, ailleurs, c'est pas ça pantoute.
C'est la Macédoine.
C'est hein? Le modèle québécois à son meilleur, encore une fois, ce matin. C'est merveilleux. Bon, les francophones de l'Ontario qui, évidemment, mangent tout un coup, là.
Oui.
Avec l'Université Laurentienne.
Oui, exactement. Alors, ça se passe à Sudbury, Paul. Ça se passe à Sudbury. Puis je sais que c'est loin de nous, mais en même temps, à un moment donné, il faut en parler un petit peu de la réalité des francophones hors Québec. Alors, Sudbury, donc une ville du nord ontarien, une ville qui a été fondée autour des mines de nickel. Tu sais, les pièces de 5 cents en nickel, là, ça a longtemps été le nickel de Sudbury. Bon. Et il y a, donc, dans le nord ontarien, une importante minorité francophone desservie par l'Université Laurentienne, une université bilingue, en grave difficulté financière, si bien qu'ils ont décidé de mettre à la porte tout près de 100 profs, et de sabrer dans plusieurs programmes. Et là, tu as 28 programmes destinés aux étudiants francophones de l'Ontario, du Nord ontarien, qui ont été éliminés. Je te parle du département de français. Imagine-toi, dans une université qui est supposée être bilingue. Département de français, fini. Histoire, fini. Département de théâtre, il y a un théâtre francophone, le théâtre du Nouvel Ontario à Sudbury. Département de théâtre, fini. Génie minier. Je te l'ai dit, c'est une ville qui est fondée autour des mines. Beaucoup de francophones ont travaillé dans les mines historiquement. Département de génie minier à l'Université Laurentienne, capote. Éducation, fini. Sage-femme en français, fini. Le tiers de tous les programmes éliminés, Paul, à l'Université Laurentienne, c'est des programmes francophones qui vont disparaître. Et là, tu as la ministre Mélanie Joly, ministre fédérale, qui a dit au gouvernement de Ford, « Hey, vous devez intervenir. Nous autres, on est prêts à aider le fédéral. » Rappelle-toi, Mélanie Joly, elle a beaucoup contribué à sauver l'Université de l'Ontario français à Toronto. Ouais, c'est elle qui avait appelé...
Pour le campus,
elle avait appelé Caroline Mulroney, la ministre des Affaires francophones de Ford. Elle avait dit, « Garde, on va travailler ensemble. » Puis ils ont réussi à le sauver. Moi, j'espère que Mélanie Joly puis Caroline Mulroney vont travailler ensemble pour sauver le maximum de programmes. Puis hier, Yves-François Blanchet, le chef du Bloc, a fait adopter une motion à la Chambre des communes. Bravo. Mais ceux qui pensent, Paul, je termine là-dessus, ceux qui pensent que ce qui se passe à Laurentienne ne nous regarde pas, là, je vous dis, faites attention. Là, parce que là, Simon-Jolin Barrette va déposer sa nouvelle loi 101. Il va proposer de limiter les places dans les cégeps anglophones du Québec. Puis je te garantis, que quand les minorités, la minorité anglophone va monter aux barricades pour dire « vous vous attaquez à nos droits », je te garantis que le débat sur Laurentienne va revenir dans le débat québécois, là, parce que ça va permettre à Simon-Jolin Barrette de dire « ah ouais, écoutez, les cégeps anglophones et les universités anglophones au Québec sont protégées et bien financées. Regardez ce qui s'est passé à Laurentienne pendant ce temps-là. Il y a quelques semaines, ils ont sacrifié le tiers des programmes des universités, des étudiants francophones du Nord-Ontarien. Fait qu'il y a un lien entre ce qui se passe à l'université Laurentienne actuellement et ce qui se passe au Québec.
Merci, tu as mis la table. Il est 7h13.